Conclusion. Vers la communauté des individus complets. Ce qui distingue le communisme de tous les mouvements connus jusqu'ici, c'est qu'il bouleverse les fondements de tous les rapports de production et de commerce traditionnels, et que pour la première fois, il traite de manière consciente toutes les données naturelles préalables comme des créations des générations passées, en les dépouillant de leur caractère primitif et en les soumettant à la puissance des individus associés. C'est pourquoi son institution est essentiellement économique. Elle est l'établissement matériel des conditions de cette association. Des conditions existantes, elle fait les conditions de l'association. L'existence créée par le communisme est précisément la base réelle qui permet de rendre impossible qu'aucune existence soit indépendante des individus. Pour autant que l'État existant n'est encore que le produit du commerce traditionnel des individus. Par conséquent, les communistes traitent pratiquement les conditions résultats de l'ancien mode de production et de commerce comme des conditions inorganiques, sans toutefois s'imaginer que le projet ou la destination des générations passées ait été de leur fournir des matériaux et sans croire que ces conditions aient été inorganiques aux yeux des individus qu'ils ont créés. La différence entre un individu personnel et un individu contingent n'est pas le fait d'une distinction conceptuelle, mais un fait historique. Cette distinction revêt un sens différent selon les époques. Par exemple, l'ordre, considéré comme accidentel pour l'individu au XVIIIe siècle, et plus ou moins la famille, elle aussi. Ce n'est pas à nous de faire cette distinction pour chaque époque. C'est chaque époque qui l'établit elle-même, parmi les différents éléments dont elle hérite. Elle l'a fait non d'après le concept, mais contrainte par les conflits matériels de l'existence. Ce qui, par opposition à l'époque antérieure, apparaît comme fortuit à l'époque postérieure, même parmi les éléments dont elle s'est trouvée héritière, c'est une forme du commerce humain qui correspondait à un développement déterminé des forces productives. Le rapport des forces productives à la forme de commerce est le rapport de la forme du commerce à l'activité ou à l'affirmation des individus. Note de bas de page. La forme fondamentale de cette affirmation individuelle est naturellement la forme matérielle dont dépend toute autre forme d'activité, intellectuelle, politique, religieuse, etc. L'agencement de la vie matérielle varie naturellement, chaque fois en fonction des besoins déjà développés, et la production de ces besoins, tout comme leur satisfaction, est elle-même un processus historique. On ne le constate jamais chez un mouton ou chez un chien. Bien que mouton et chien, sous leur forme actuelle, soient à coup sûr, mais malgré eux, les produits d'un processus historique. Fin de la note de bas de page. Les conditions dans lesquelles les individus communiquent entre eux, tant que le conflit ne s'est pas encore produit, sont des conditions qui relèvent de leur individualité, et elles ne constituent donc, pour eux, rien d'extérieur. Elles sont les seules qui permettent à ces individus déterminés, vivant dans une situation déterminée, d'assurer leur existence matérielle et de produire tout ce qui s'y rattache. Par conséquent, ce sont les conditions de leur activité personnelle, elles en sont aussi le produit. La condition déterminée sous laquelle les individus produisent correspond donc, aussi longtemps que le conflit ne s'est pas encore manifesté, à leur réelle dépendance, à leur existence bornée, dont la grisaille ne se révèle qu'avec l'avènement de l'antagonisme, et n'existe donc que pour ceux qui vivront plus tard. Cette condition est alors ressentie comme une entrave accidentelle, et l'on prétend alors que l'époque antérieure avait elle aussi conscience d'être soumise à cette entrave. Ces conditions diverses, qui apparaissent d'abord comme condition de l'activité personnelle, et plus tard comme entrave de celle-ci, constituent dans tout le développement historique une série cohérente de formes de commerce. Et cette cohérence tient à ce qu'une forme antérieure, devenue entrave, est remplacée par une nouvelle, qui correspond aux forces productives plus développées, donc au mode plus avancé de l'activité personnelle des individus. Ce mode, à son tour, se change en entrave, et il est alors remplacé par un autre. Comme ces conditions correspondent, à chaque stade, à l'évolution simultanée des forces productives, leur histoire est en même temps l'histoire des forces productives qui se déploient et qu'assument chaque génération nouvelle. Elle est, de ce fait, l'histoire du développement des forces des individus eux-mêmes. Comme ce développement se poursuit spontanément, autrement dit, comme il n'est pas subordonné à un plan d'ensemble établi par des individus librement associés, il émane d'une diversité de localités, de races, de nations, de branches de travail, etc., dont chacune se développe d'abord isolément et n'entre que peu à peu en liaison avec les autres. En outre, il ne s'accomplit que très lentement. Les différents stades et intérêts ne sont jamais complètement dépassés, mais seulement subordonnés à l'intérêt qui triomphe. Et il traîne encore à ses côtés pendant des siècles. Il s'ensuit qu'au sein d'une même nation, les individus, même abstraction faite de leur situation de fortune, se développent de manière très différente, et qu'un intérêt antérieur, dont le mode de commerce particulier est déjà supplanté par un autre, particulier à un intérêt ultérieur, conserve encore longtemps une puissance traditionnelle dans la communauté trompeuse, qui se dresse en face des individus. L'État, le droit, entre parenthèses. Puissance qui, en dernière instance, ne peut être brisée que par une révolution. C'est ce qui explique aussi pourquoi, relativement à des points particuliers, qui permettent une synthèse plus générale, la conscience peut paraître parfois en avance sur les conditions empiriques de l'époque. De sorte que, dans les luttes d'une époque plus tardive, on peut s'appuyer sur l'autorité des théoriciens antérieurs. En revanche, dans des pays qui, comme l'Amérique du Nord, recommencent du début une époque historique déjà avancée, le développement connaît un rythme rapide. Ces pays ne disposent pour antécédents naturels que des individus qui s'y établissent, après s'être soustraits aux formes de commerce des vieux pays peu conformes à leurs besoins. Ils débutent donc avec les individus les plus avancés des vieux pays, et partant avec le mode de commerce le plus évolué dont ces individus sont capables, avant même qu'ils puissent s'imposer dans les vieux pays. Note de bas de page. Énergie personnelle des individus appartenant à différentes nations, allemands et américains, énergie due au seul croisement des races, d'où les traces de crétinisme chez les Allemands. En France, Angleterre, etc., des peuples étrangers transplantés sur un terrain déjà développé, en Amérique, sur un sol tout à fait vierge, en Allemagne, la population autochtone cultivant l'immobilité. Fin de la note de bas de page. C'est le cas de toutes les colonies qui ne sont pas de simples établissements militaires ou commerciaux. Carthage, les colonies grecques, et l'Islande au XIe et XIIe siècle en fournissent des exemples. Un phénomène semblable se produit en cas de conquête. Quand le mode de commerce qui s'est développé sur un autre sol est importé tout à fait dans le pays conquis. Alors que, dans son pays d'origine, il était encore vicié par des conditions et des intérêts hérités du passé, il peut et doit s'imposer ici, intégralement et sans entrave, ne fût-ce que pour assurer aux conquérants une puissance durable. Voir l'Angleterre et Naples, après la conquête normande, qui leur apportait la forme la plus parfaite de l'organisation féodale. Dans la grande industrie et la concurrence, toutes les conditions d'existence, toutes les limitations et tous les particularismes des individus se sont fondus dans ces deux formes élémentaires, la propriété privée et le travail. Avec la monnaie, tout mode de commerce et le commerce lui-même s'imposent aux individus comme des faits de hasard. Par conséquent, il tient à la seule existence de la monnaie que toute communication n'a été, jusqu'à présent, que communication des individus dans des conditions déterminées et non des individus en tant qu'individus. Ces conditions se ramènent à deux. Travail accumulé ou propriété privée et travail réel. Que l'une de ces deux conditions disparaisse et le commerce est bloqué. Les économistes modernes eux-mêmes opposent l'association des individus à l'association des capitaux. En outre, les individus eux-mêmes sont totalement subordonnés à la division du travail et, de ce fait, placés dans la plus complète dépendance les uns des autres. Pour autant qu'elle affronte le travail au sein du travail, la propriété privée se développe par la nécessité de l'accumulation. Que si, au début, elle conserve, peu ou prou, la forme de la communauté, elle se rapproche de plus en plus, dans la suite de son évolution, de la forme moderne de la propriété privée. La division du travail entraîne aussitôt, dès l'origine, la division des conditions du travail, instruments et matériaux, et partant, la dispersion du capital accumulé entre différents propriétaires, donc la division entre capital et travail, puis les différentes formes de la propriété elle-même. À mesure que la division du travail s'accentue et que l'accumulation s'accroît, cette dispersion s'intensifie considérablement. Le travail lui-même ne peut subsister qu'à cette condition. Par conséquent, nous sommes en présence de deux faits. En premier lieu, les forces productives semblent être totalement indépendantes et détachées des individus, comme un monde en soi, à côté des individus. Phénomène dont voici la raison. Les individus détenteurs de ces forces sont dispersés et s'opposent les uns aux autres, alors que ces forces ne sont réelles que dans le commerce et la connexion de ces individus. Donc, d'une part, une totalité de forces productives qui se sont, pour ainsi dire, déguisées en choses et ne sont plus pour les individus eux-mêmes leurs propres forces, mais celles de la propriété privée, qui sont donc les forces de ces individus dans la seule mesure où ils sont propriétaires privés. Dans aucune période antérieure, les forces productives n'avaient pris cette forme indifférente au commerce des individus en tant que tel, parce que leur commerce lui-même avait encore un caractère borné. D'autre part, en face de ces forces productives, se dresse la majorité des individus à qui ces forces ont été arrachées, et qui, frustrés ainsi de toute la substance réelle de leur vie, sont devenus des êtres abstraits, mais qui, précisément, pour cette raison, sont en mesure de nouer des relations entre eux en tant qu'individus. Seul lien qu'ils conservent encore avec les forces productives et avec leur propre existence, le travail a perdu chez eux toute apparence d'une mise en œuvre de soi-même et ne maintient leur vie qu'en l'appauvrissant. Tandis qu'aux époques antérieures, cette affirmation de soi et cette production de la vie matérielle étaient séparées, parce qu'elle incombait à des personnes différentes et que la production de la vie matérielle, en raison du caractère borné des individus eux-mêmes, passait encore pour un mode inférieur de la mise en œuvre de soi-même, elles sont à présent séparées l'une de l'autre, à tel point que la vie matérielle apparaît partout comme une fin, et que la production de cette vie matérielle, le travail, ouvrez la parenthèse, de nos jours, seule forme possible, mais nous le voyons bien, forme négative de l'affirmation personnelle, fermez la parenthèse, le travail donc est considéré comme un moyen. Par conséquent, les choses en sont maintenant arrivées à ce point que les individus sont obligés de s'approprier la totalité existante des forces productives, non seulement pour être capables d'affirmer leur moi, mais tout simplement pour assurer leur existence. Cette appropriation dépend, dans un premier temps, de l'objet qu'il s'agit de s'approprier, à savoir les forces productives totalement déployées, lesquelles ne peuvent exister que dans un commerce universel. De ce seul point de vue déjà, cette appropriation doit donc avoir un caractère universel, correspondant aux forces productives et au commerce. L'appropriation de ces forces n'est elle-même rien d'autre que l'épanouissement des aptitudes individuelles requises par les instruments matériels de leur production. De ce seul fait, l'appropriation d'une totalité d'instruments de production équivaut à l'épanouissement d'une totalité de facultés dans les individus eux-mêmes. Cette appropriation dépend, en outre, des individus qui la pratiquent. Seuls les propriétaires des temps présents, à qui il est complètement interdit de jamais s'affirmer personnellement, sont capables de parvenir à cette affirmation active d'eux-mêmes, complète et non plus bornée, qui consiste à s'approprier une totalité de forces productives et à déployer une totalité d'aptitudes supposées par la même. Dans le passé, toutes les appropriations révolutionnaires se heurtaient à des limites. Des individus qui étaient empêchés d'affirmer leur personnalité en raison des insuffisances de l'instrument de production et par les limites du commerce s'appropriaient un instrument de production limité et ne parvenaient de ce fait qu'à de nouvelles limitations. Leur instrument de production devenait, certes, leur propriété, mais eux-mêmes, ils restaient soumis à la division du travail et à leurs propres moyens de travail. Dans toutes les formes anciennes de l'appropriation, une masse d'individus restait soumise à un seul instrument de production. Dans l'appropriation réalisée par les prolétaires, il faut qu'une masse d'instruments de production soit subordonnée à chaque individu, et que la propriété soit subordonnée à l'ensemble. Le commerce universel moderne ne peut être subordonné aux individus qu'à condition d'être subordonné à tous. L'appropriation dépend, en outre, des voies et moyens par lesquels elle doit être accomplie. Elle ne peut être accomplie que par une association qui, en raison du caractère même du prolétariat, ne peut être qu'universelle, et par une révolution dans laquelle, d'une part, la puissance de l'actuel mode de production et de commerce, comme de l'actuelle organisation sociale, est renversée, et dans laquelle, d'autre part, se développe le caractère universel du prolétariat, et l'énergie qui lui est nécessaire pour réaliser cette appropriation. Bref, par une révolution où le prolétariat se dépouille de tout ce qu'il a conservé jusqu'ici de sa position sociale. C'est à ce stade que l'affirmation personnelle se confond enfin avec la vie matérielle. Stade qui correspond à l'épanouissement des individus appelés à devenir des individus complets et à se débarrasser de tout naturel primitif. C'est alors qu'il y a harmonie entre la transformation du travail en affirmation active de soi et la transformation du commerce social, jusqu'ici restreint, en commerce des individus comme tels. Avec l'appropriation de la totalité des forces productives par les individus associés, la propriété privée cesse d'exister, alors que, dans le passé, c'était toujours une condition particulière qui apparaissait comme accidentelle. C'est maintenant la particularisation des individus eux-mêmes, la profession privée de chacun en particulier, qui est devenue elle-même accidentelle. Les philosophes se sont représentés les individus qui ont cessé d'être soumis à la division du travail comme un idéal, appelé l'homme avec un grand H. Et ils ont conçu tout le processus que nous avons exposé comme le processus d'évolution de l'homme. Si bien qu'à chaque étape historique, l'homme avec un grand H fut substitué aux individus des temps passés et présenté comme la force qui mène l'histoire. Tout le processus fut ainsi conçu comme processus d'aliénation de soi, de l'homme avec un grand H, ce qui s'explique essentiellement par le fait que l'individu moyen, de l'étape ultérieure, fut toujours attribué à l'étape antérieure et la conscience ultérieure prêtée aux individus antérieurs. Cette intervention qui, de prime abord, fait abstraction des conditions réelles, a permis de transformer toute l'histoire en un processus d'évolution de la conscience.